Avez-vous déjà lu un passage dans la Bible qui a suscité en vous une réflexion, qui a tourné dans votre tête toute la journée, plusieurs jours, plusieurs semaines, ou mois? Ça m'est arrivé cette année. Et c'est ça que je veux vous partager ce matin. Ce n'est pas un passage, mais c'est le lien entre deux passages qui a fait le clic. Et je vous lis tout de suite ce premier passage, ça se trouve dans Actes 15. Actes, c'est les actions des premiers chrétiens, de la première église. Et je lis déjà le verset 1 du chapitre 15. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Les hommes venus de Judée, ces quelques hommes venus de Judée, ils ont marché 6 jours et 2 heures. Si vous tapez Jérusalem Antioche dans Google Maps, c'est le résultat que vous obtenez. Il y a 714 kilomètres. Mais en fait, le système ne tient manifestement pas compte du besoin de repos et du besoin de sommeil. Donc je pense qu'ils ont marché environ entre 2 et 3 semaines. Antioche, c'est la capitale de la province de Syrie. C'est une énorme ville, il y a 500 000 habitants environ à cette époque. Et voilà. Et Jérusalem, alors Jérusalem, vous situez plus facilement, je pense, c'est aussi une capitale. C'est la capitale de la Judée, de la province de la Judée. Et la Judée, c'est le territoire où habitent les Juifs. Et les Juifs, c'est les tenants du judaïsme. Judée, Juif, judaïsme, on sent qu'il y a la même source, la même étymologie. Ça vient de Juda, la tribu de Juda. La tribu de Juda a conquis cette partie de territoire plus de 1000 ans avant, en même temps que les autres tribus d'Israël. Et puis, au fil des années, il y a eu des mouvements de population, il y a eu aussi des déportations, des retours partiels de déportation. Au temps de Jésus, on ne parle plus que de la Judée. Et les habitants, comme je le disais, sont des Juifs, tout en étant peut-être issus de la tribu de Benjamin ou de la tribu de Lévi. Jésus était juif. Il allait à la synagogue. Il lisait, et non seulement lisait, mais enseignait la Torah et les prophètes, donc l'Ancien Testament. Quand il a choisi des disciples, il a choisi des juifs qui attendaient quelque chose, qui étaient bien disposés. Il les a discernés. Les foules qui ont suivi et écouté Jésus, c'était tous des juifs parce que Jésus avait dit « Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël ». Ça restait confiné dans ce territoire. La première église, d'ailleurs, quand il y a eu l'Esprit qui est descendu sur cette église, ces milliers de gens qui se sont convertis, c'était des juifs. C'est pour ça qu'on dit que la première église était juive. Mais si vous lisez dans les évangiles, vous aurez remarqué que des fois c'est écrit « Les juifs voulaient faire mourir Jésus » ou bien « Les juifs voulaient tendre un piège à Jésus ». Manifestement, il ne s'agit pas de tous les juifs, il s'agit de certains juifs, et notamment parmi les autorités religieuses. Si on dit les autorités, prenons en Suisse, autorité politique, conseil fédéral. Si le conseil fédéral décide de ne pas accorder le pavillon suisse à ce bateau de secours, l'Aquarius, eh bien on va dire « les Suisses n'ont pas accordé le pavillon ». Mais il y a quand même 2000 Suisses qui ont signé une pétition pour justement demander ce pavillon. Ça montre bien que quand on dit les Suisses, ce n'est pas forcément tous les Suisses. La même chose au niveau d'Israël. Les Juifs qui étaient opposés à Jésus, c'était notamment, entre autres, ou principalement les autorités, le Sanhédrin. Et savez-vous qui était le chef du Sanhédrin? C'était Caïphe du temps de Jésus. Et j'ai été frappé. En regardant ça, savez-vous qui c'est qui a finalement institué, qui a nommé Caïphe? Eh bien, c'est un procurateur romain de Judée qui s'appelle Valerius Gratus. C'est le pouvoir romain. Les Romains étaient partout sur le bassin méditerranéen. C'est eux qui faisaient la loi. Ils étaient sympas, j'allais dire, pour autant qu'on les accepte, pour autant qu'on paye le tribut à César. Mais c'est eux qui ont nommé Caïphe. J'étais étonné. Voilà. Je vais peut-être boire hein, parce que j'ai la bouche un peu sèche. Ça, c'était pour la Judée. Hein. Donc, Antioche, encore une précision, il y avait une très grande église à Antioche, pour différentes raisons. Déjà parce que c'était une grande ville, mais aussi parce qu'il y avait eu la persécution. Il y a des. Justement, les chrétiens, les premiers chrétiens ont été persécutés et certains sont allés justement à Antioche. Et c'est dans cette ville que pour la première fois, on a nommé, j'allais dire les chrétiens, on les a nommés chrétiens. Parce que jusqu'à ce jour-là, c'était une expression qui n'existait pas. Mais pourquoi on les a nommés chrétiens ? C'était pas les chrétiens eux-mêmes qui se sont donné cette étiquette. C'est les gens de l'extérieur qui les voyaient, qui les entendaient. Puis ils étaient toujours en train de parler de Jésus, le Messie d'Israël. Et ça devait être tellement, tellement courant qu'à un moment donné, on dit, c'est des chrétiens. Parce que Messie en grec, c'est Christos. Donc chrétien, c'est Messie. C'est allusion à ça. Je pense qu'à cette époque, quand on parlait les chrétiens, ça faisait beaucoup plus écho que pour nous aujourd'hui. C'est comme on sait ce que c'est un chrétien. Mais à l'époque, ça faisait, disons, une allusion vraiment au Messie et ça rappelait cette foi que ces personnes avaient. Alors maintenant, si on revient à notre texte, donc ces hommes venus de Judée qui étaient des Juifs, ils rencontrent des frères, donc des chrétiens, et puis ils leur disent, si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors, ces frères, ces chrétiens, manifestement, ils n'étaient pas Juifs, ils étaient chrétiens, ils avaient entendu le message, ils avaient vibré, et puis une des marques à cette époque, qui devrait, ou qui l'est aussi aujourd'hui, mais c'est le Saint-Esprit. Ces non-juifs ont reçu le Saint-Esprit et la joie du Saint-Esprit de la même manière que les juifs croyants l'avaient reçu. Et c'est ça qui a frappé aussi les juifs, les premiers juifs croyants, c'est de dire, mais les non-juifs, ils reçoivent la même chose. Et voilà qu'il y a des gens venus de l'extérieur de cette église. On ne sait pas très bien quelles étaient leurs intentions profondes, mais peu importe, ils leur disent de manière formelle, si vous n'êtes pas circoncis, les hommes, vous ne pouvez pas être sauvés. C'est une douche froide pour ces personnes. Et ça a mis en ébullition toute l'Église parce qu'on n'y avait jamais pensé. Vous savez, c'est dans l'habitude des Juifs et aussi en conformité à l'Ancien Testament de pratiquer la circoncision. Et voilà. Ils n'y avaient jamais pensé, ils n'avaient jamais dit aux non-juifs, ben voilà, vous devez passer par là. Et ça donnait une grande tension. Il faut quand même que je regarde ma montre, ça joue, pas que je fasse tout un coup trop long. Et voilà, pas de chance pour ces gens qui sont venus de Judée. À Antioche, il y avait Paul qui était là. C'est pas qu'il était là chaque fois. Lui, il voyageait beaucoup dans tout le bassin méditerranéen. Et lui avait l'habitude de parler aux non-juifs, et lui avait l'expérience de ce que ça représentait, il connaissait aussi le judaïsme à fond, et pour lui c'était clair, il ne fallait pas imposer cette circoncision à ces non-juifs, ça les aurait freinés, ça aurait été un frein à l'évangile finalement. Et donc, je lis maintenant le deuxième verset, où on voit que Paul et Barnabas, qui étaient aussi là, eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Là, ils n'étaient pas d'accord. Seulement, Paul, tout en étant Paul, ce n'était pas encore la vérité, la Bible. Hein. Aujourd'hui, oui, ces textes, nous les considérons comme textes de Dieu, mais là, oui, ils avaient peut-être raison, mais est-ce qu'ils avaient vraiment raison ? Et donc, ils ont décidé d'aller consulter qui ? Eh bien, des gens qui avaient vécu avec Jésus pendant les 3 ans qu'ils l'avaient entendu et tout. Et finalement, c'était eux la référence. Et c'est ces hommes-là étaient encore à Jérusalem, n'avaient pas fui la persécution, et c'était les apôtres, Pierre, Jean. Et puis il y avait une église qui était restée à Jérusalem, et ils ont décidé d'envoyer Paul et Barnabas pour aller discuter ça, pour savoir. Et là, on voit au verset 6, une fois qu'ils étaient à Jérusalem, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Et il y eut une longue discussion. Nous, on ne comprend pas, parce que pour nous, ce n'est pas une question. Et puis on se dit aussi, mais les chrétiens, ils doivent avoir l'unité, ils devraient avoir un seul avis. Eh bien non, il y avait le pour, le contre, et bien qu'étant rempli de l'esprit, ce n'était pas clair, ils ont eu une longue discussion. Et là, le pasteur, parce que c'était un ancien, alors les apôtres, c'est peut-être des gens qui circulaient, qui étaient une référence, mais les anciens, c'est ceux qui étaient établis à cet endroit. Et là, le pasteur, c'était un dénommé Jacques, qui était le demi-frère de Jésus, qui connaissait aussi bien Jésus. Et puis lui a eu un réflexe, je dirais exemplaire, dont il faut prendre de la graine. Il a dit, eh bien, on va regarder ce que la Bible dit. Vous allez dire, mais la Bible, on ne disait pas, effectivement, à ce temps-là, on n'utilisait pas le mot Bible, parce que c'est venu après. Mais elle existait, cette Bible. C'était ce que nous, on appelle l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, c'est une expression qu'on a aussi donnée après. Eux, ils disaient l'Écriture. Il n'y avait pas l'Ancienne, la Nouvelle, la Vraie, la Moins Vraie. L'Écriture. Et puis là, Jacques, il a dit, on va prendre l'Écriture. Et il a été inspiré et il leur a lu un verset à tout le monde. Et ça les a mis tous d'accord. Tous ont dit, c'est clair, il ne faut pas imposer cette complication aux non-juifs. Alors maintenant, je vais vous lire ce texte, c'est dans Amos, mais moi je le lis toujours dans Actes, hein, parce que c'est repris dans Actes. Mais c'est du prophète Amos qui avait vécu 750 ans avant, et puis à la fin de son écrit, il y a ce texte que je reprends. Donc c'est au verset 16 dans Actes, hein. Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait tout cela. Voilà, je vous lis ça sur un ton normal, quoi. Hein. Et puis, suite à ça, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'est pourquoi ? Je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu. Vous avez compris ? Qu'est-ce qui a fait le clic ? Moi, je trouve que quand on fait une lecture simple, on dit, bon, ben, c'est bien, tant mieux. Mais nous, ça ne nous parle pas spécialement, ce texte de Amos. Donc, il faut le reprendre peut-être un peu plus... je ne veux pas dire à fond, mais moi je prends l'habitude, moi j'aime bien en lisant la Bible, je vais vite consulter ce que j'appelle, enfin ce qu'on appelle strong, ça veut dire c'est l'expression grecque. Moi je n'ai jamais appris le grec, hein, mais des fois on discerne quand même des choses. Et qu'est-ce que j'ai vu ? C'est le mot « toutes les nations ». Alors attendez, je fais d'abord une parenthèse, « nation ». Nation, vous connaissez l'Organisation des Nations Unies. Voilà, il y a combien de nations aux Nations Unies ? Il y en a 193. Il y a encore quelques autres nations qui ne sont pas encore qui sont inventoriées mais qui ne sont pas membres. Donc des nations, il y en a moins de 200. Et puis ici, moi je dis le mot clé, c'est ce mot, toutes les nations appelées de mon nom. Et toutes les nations appelées de mon nom, on peut aussi le comprendre, toutes les nations qui appartiennent à l'Éternel. Les nations appartiennent à l'Éternel. Et c'est ça, ces Juifs, où ça leur a parlé. Mais alors je reprends maintenant le mot grec. Le mot grec, c'est ethnos. Si je vous dis ethnos, ça vous fait penser à un mot en français ? Ethnie, ethnique, ethnologie. Et combien il y a d'ethnies ? Sur cette terre, il y en a 10 000. Voilà. Et moi, je pense que le texte ici, et c'est aussi ça, comme ça qu'il le comprenait, les ethnies, pas seulement 200 nations, les ethnies, une ethnie c'est un groupe de personnes qui ont la même culture, qui sont au même endroit, et qui voilà, c'est ça une ethnie, c'est de Dieu. Et toutes les ethnies appartiennent à Dieu. Et pour eux, ça a été un déclic. Et suite à ça, ils ont écrit une lettre pour toutes les églises, et avec une expression très particulière et très jolie, qui dit « En effet », donc ils écrivent, « En effet, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. » Ils ont eu dû avoir une discussion. Le Saint-Esprit était bien sûr de cet avis, puis eux, il a fallu aussi qu'il le soit, hein, de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Et pour moi, ce texte, ce Amos, ce nation, ethnie, ça a l'air de rien, mais c'est ce qui a permis de libérer l'évangélisation sur la terre entière. Parce que si là, on leur avait mis ce frein de la circoncision, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Et donc, c'était capital, ce texte. Voilà, ça, c'est fin de la première partie. Je fais quand même une parenthèse. Pour ceux qui liraient ce texte, juste un peu après, curieusement, Paul, il rencontre, enfin plusieurs semaines après, il rencontre un jeune homme qui s'appelle Timothée, sa maman, elle est juive, son papa, il est grec, il n'est pas circoncis. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va lui demander de se circoncire. Il lui dit, tu dois être circoncis. À cause de quoi? À cause des Juifs. Et là, on voit toute la sensibilité, peut-être la douceur aussi de l'Évangile. En fait, le but, c'est de ne pas... De pas freiner les choses. Et il était avantageux pour que ce Timothée qui soit vis-à-vis des autres juifs quand même circoncis. Voilà, ça montre aussi toute la souplesse. Hein. Donc, comme j'ai dit, c'est la fin de la première partie. Je prends à nouveau un verre d'eau. J'aimerais vous parler un tout petit peu de la Judée et de la suite. À Jérusalem, ils avaient eu cette discussion. 20 ans après, il y a eu un énorme drame, il y a eu une révolte. Parce que comme dit, les Romains, ils étaient partout et tout le monde n'était pas d'accord avec ce pouvoir romain. Et il y a toute une génération de juifs qui se sont révoltés contre le pouvoir romain. Et puis là, les Romains ont réagi comme ils savaient le faire. La première puissance mondiale, hein, et ils sont allés avec le général Titus et ils ont détruit cette ville, mais surtout, ils ont détruit le temple. Et ils l'ont brûlé. Ce temple, c'est ce temple où Jésus avait été, puis il avait dit, « Vous faites de la maison de mon Père une caverne de voleurs. » Jésus avait parlé de ces murs étonnamment en disant, « La maison de mon Père, cette maison, elle a été détruite par Titus. » Et pour les Juifs, c'est une plaie qui n'est pas encore cicatrisée aujourd'hui. Et voilà, bien sûr, les générations passent. 60 ans plus tard, rebelote, de nouveau un soulèvement des Juifs contre le pouvoir romain, et là c'est l'empereur Hadrien, et ils disent non mais cette fois ça suffit, les Juifs. Et ils ont de nouveau complètement détruit ce qu'il y avait de cette ville. Alors, il n'y avait plus de temple, et ben, ils en ont mis un autre, un temple de Jupiter, et puis les Juifs ils les ont chassés, puis ils ont dit maintenant vous ne reviendrez plus jamais. S'il y en a un qui revient, c'est la peine de mort. Alors voilà, la Judée vidée des Juifs, ça ne peut plus s'appeler Judée. Ben non, les Romains, ils ont dit, il faut changer aussi le nom. D'ailleurs, ils ont commencé par changer le nom de Jérusalem. Ils ont dit, Jérusalem n'existe plus. Ça s'appellera Elia Capitolina. Voilà, une référence au Dieu et à l'empereur. Et puis, il fallait aussi changer, débaptiser le nom de Judée. Et là, j'imagine un conseiller qui connaissait l'histoire a dit, « Ah, mais oui, il y avait à l'époque un peuple, c'était les ennemis jurés d'Israël. Aujourd'hui, ils ont été absorbés dans les autres pays, donc l'ethnie n'existe plus, c'est les Philistins. » On dit, « Bon, ben, pour marquer les Juifs, on va mettre le nom de ce pays des Philistins en lieu et place de la Judée. » Et en latin, ça donnait Palestine. En l'an 135, c'est de l'histoire, c'est pas de la politique, en l'an 135, on a mis le nom Palestine pour que les Juifs comprennent bien que c'est plus chez eux. Maintenant, je vais quand même vite faire une parenthèse. Aujourd'hui, les Palestiniens ne sont pas des Philistins. Ce sont des Arabes et ce sont des fils d'Abraham. Et c'est une ethnie qui est aimée de Dieu. Voilà. Mais je peux imaginer, si moi j'avais vécu à cette époque où les chrétiens pouvaient penser, disons, ben voilà, il y a peut-être une époque qui est finie, l'époque d'Israël, et puis maintenant, l'Église reprend la suite. Ça pouvait être plausible comme réflexion. Il y a deux semaines, Walter Zanzen est passé ici. Et puis j'ai discuté un peu avec lui, puis il me dit, ah, le 19 mars 2018, cette année, j'ai donné une conférence ou un exposé sur la destinée éternelle de Jérusalem. Pensez bien, curiosité, je suis allé écouter. Hein, et puis, j'ai relevé notamment, transcrit un tout petit bout là, de son exposé, et il disait qu'à un moment donné, donc dans les années 2, 3, 400, parce qu'ensuite l'Église continuait, bien sûr, et il y a ce qu'on appelle les pères de l'Église, ou des théologiens, si on veut, et puis Walter Zanzen soulignait que parfois, ils ont eu une mauvaise compréhension du plan de Dieu. Et il cite notamment Tertullien, Origène, Augustin, qui ont interprété la dispersion des Juifs comme un châtiment divin à cause de la crucifixion de Jésus et du rejet du Messie. Jérôme va dire, enfin bref, il y aura encore d'autres citations. Et le drame dans tout cela, c'est que ça semait une semence qui a porté des fruits, mais des mauvais fruits. Et on peut dire que depuis ce moment-là, si on devait résumer tous les siècles qui ont suivi jusqu'à maintenant, je dirais ben, les Juifs ont été détestés partout, toujours, et parfois de manière violente et meurtrière. Et c'est impressionnant, si on s'intéresse à l'histoire des Juifs dans le monde, de voir cette souffrance qu'il y a eu quand même. Je ne veux pas maintenant tout lister, de toute façon ce serait impossible, mais peut-être un ou deux rappels. Il y a eu les croisades, parce qu'entre-temps, donc les Romains ont été battus, il y a eu aussi des musulmans qui étaient là, et puis l'Église est devenue une institution aussi, donc tous les pays sont devenus chrétiens, et donc il a été décidé, avec les croisades, d'aller libérer Jérusalem. Et en partant, il y a certaines troupes, en allant pour libérer Jérusalem, faire la guerre en fait aux musulmans, eh bien il y en a qui ont dit « Ah mais finalement, sur le passage, il y avait des juifs et ils ont massacré des juifs. » Voilà, ça c'est le début des croisades. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Et quand on dit massacrer des juifs, c'est des familles, c'est des enfants, c'est des civils, c'est pas des guerriers. Voilà, il y a eu aussi un peu plus tard ce qu'on appelle le concile de Latran, qui a dit il faut que les non-chrétiens, il vise la ségrégation des non-chrétiens. Autrement dit, les juifs, il faut pas qu'on se mélange avec eux. Et les juifs, il y a des juifs qui voulaient s'assimiler, ils étaient habillés comme tout le monde, ils étaient normaux. Mais non, on leur a imposé de s'habiller autrement, de mettre des habits ridicules pour qu'on voit qu'ils sont juifs. Et puis, comme il était aussi souhaité qu'on se sépare des juifs, alors en Angleterre, c'est tout simple, ils ont chassé tous les juifs. En 1290, en 1306, la France, idem, tous les juifs, on les chasse. Et c'est pour ça que les juifs ont toujours été déplacés en Europe. Après, ils sont revenus, bien sûr. Voilà. Écoutez, je fais un petit intermède, c'est-à-dire j'ai ici un livre d'histoire, mais l'histoire de la Suisse, un petit livre, et puis moi je me suis souvenu, en fait en préparant ce message, que j'avais lu quelque chose dans ce livre. C'était à la bibliothèque de la ville de Bienne, des fois j'allais feuilleter un peu comme ça, et puis il y avait un texte qui m'avait frappé, étonné même, puis je me suis dit, ben, je vais aller le retrouver, puis ça c'est, j'ai été à la bibliothèque, je l'ai emprunté, j'irai le rendre. Et puis, je vais vous lire un petit bout de l'histoire suisse, hein. Deux, trois lignes. Hein. Alors bon, les années 1315-1316, 1345-1347 furent marquées par des inondations catastrophiques. C'est maintenant que je vous lis la phrase suivante, donc on est en Suisse, hein, et dans cette phrase, il n'y a pas de virgule, alors je la lis aussi sans reprendre mon souffle. Alors, une invasion de sauterelles en 1338 précéda la grande peste de 1349 et les massacres de juifs qu'elle provoqua. Puis l'histoire continue. Mais ok, voyez, les sauterelles, la peste, elle tue. Mais je ne savais pas qu'elle provoque des massacres. Elle tue tout le monde. Puis ici, c'est mis, elle provoqua des massacres de juifs. On ne nous explique pas. Mais en fait, si on gratte un peu, et on voit que la question n'était pas seulement en Europe, il y a eu la peste effectivement plusieurs fois et partout. Et quand il y a quelque chose, il faut trouver un coupable. Donc c'était les juifs. Donc ceux qui n'étaient pas, ah bon, on les massacrait encore. Ça, c'est la Suisse. C'est un petit, j'allais dire un petit, non, c'est un exemple dramatique, mais c'est qu'un exemple. Je vous lis aussi une phrase terrible, mais qui montre aussi l'ambiance du Moyen-Âge. Donc c'est une citation, c'est pas, je le lis, mais c'est une citation, c'est pas moi. Les Juifs sont une race abjecte, ce sont des vers de terre dégoûtants, envoyez-les aux travaux forcés, qu'on incendie leur synagogue et leur maison. Ça, c'est en l'an 1500 que ça a été dit. Et ça montre cette ambiance. Le drame dans cette phrase, il y en a beaucoup qui l'ont dit, mais celui qui a prononcé exactement cette phrase, c'est Luther. À la fin de sa vie, il nous a apporté beaucoup, Luther. Il faut pas, vraiment, c'est difficile de tout comprendre. Mais s'il a dit ça, bon, c'était une grande déception parce qu'il avait tellement espéré que les Juifs, avec la Bible, finalement deviennent protestants. Et puis c'est un peu de rage qu'il a donné cette phrase. Mais ça vous montre l'ambiance. Ouais. En Suisse aussi, pendant 200 ans, est-ce qu'il y avait des Suisses entre 1600 et 1900 ans? Oui, il y avait des Juifs, mais il y avait seulement deux villes, deux endroits, pas deux villes, deux endroits en Suisse où ils pouvaient s'établir. C'était à Enningen et à Lengnau. Pas Longeau ici, Lengnau en Argovie. Mais je suis allé voir sur Google Street, c'est des petits villages de rien du tout. Il y avait deux petits villages. Eh bien, les Juifs, oui, peuvent être en Suisse, mais là. Et puis, je lis aussi ce qu'on dit d'eux. On dit ils étaient de simples protégés étrangers qui n'avaient pas le droit d'exercer une activité artisanale, ni de posséder de terres, ni de devenir paysans en Suisse, hein. Ils ne pouvaient se livrer qu'à des activités commerciales. Mais après, on dit, les Juifs, c'est des commerçants. Ben oui, ils ne peuvent pas être paysans. Il faut. Bien, écoutez, je vais maintenant terminer, disons, avec ce rappel. Vous êtes tous au courant et sensibilisés avec la Shoah, parce que là, il y a eu la montée des partis d'extrême droite en Europe et aussi en Allemagne, et il y a eu Hitler. Je dis, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi, il y a Satan qui est entré dans Hitler. Et finalement, la solution, qui s'est appelée la solution finale, c'était satanique. La destruction de tous les Juifs, c'était ça le programme. Mais ça n'a pas eu lieu. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu 6 millions, il y a eu 1 million d'enfants. Pourquoi sont-ils morts ? Et là, dans cette détresse, finalement, de l'Europe, toute l'Europe a été secouée, le monde, c'est une guerre mondiale, voilà que c'était terminé, mais ils étaient en train d'errer, les Juifs errants, on peut le dire. Ils erraient, et finalement, plusieurs centaines de milliers de survivants se sont dirigés en direction de la Palestine. Parce que le nom de la Palestine est plus ou moins toujours resté, mais était redevenu actuel, parce que, enfin, sans aller dans les détails, mais les Anglais étaient les occupants à ce moment-là. Donc, la Palestine, la Judée, a toujours été occupée, toujours. Et là, ils arrivent en Palestine. La Palestine, si j'ai bien compris, c'était un grand territoire dont une partie, dont la moitié, avait déjà été transformée en un pays, c'est la Jordanie. Mais l'autre moitié était occupée avec les Anglais. Et là, il y avait bien sûr des Arabes habitants, et il y avait déjà des Juifs. Sans refaire toute l'histoire, il y a toujours eu plus ou moins des Juifs dans ces régions-là. Et là, il y a ces centaines de milliers de gens qui sont venus. Et puis, les Anglais ont décidé, en 1947, ils ont dit, maintenant nous, on en a marre, on ne nous veut pas, on va partir. Et ils ont dit, dans 6 mois, on est loin. Ils se sont adressés à l'ONU, ils ont dit, ONU, trouvez-nous une solution. Ils ont envoyé une commission qui a étudié où habitent les gens, où habitent les juifs, etc. Et ils ont dessiné une solution, ils ont proposé un partage. Ils ont dit, ben, partageons la Palestine, faisons 2 États, un État arabe et un État juif. Pour les juifs, conscients de toute cette misère et de toute cette haine, ils se sont dit, mais c'est bon. Et c'était pas un immense territoire qu'on leur offrait, mais ils ont dit, on prend. Mais ça signifiait aussi, on veut être en paix. Ça voulait pas dire, j'entends, bref. C'était ça. Et ils ont accepté. Malheureusement, 5 pays arabes aux alentours, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, l'Iran, le Liban, ces pays-là, qui existaient déjà, qui avaient leur pays, qui l'avaient retrouvé aussi récemment, eux ont dit, mais non, on veut pas un État juif à côté de chez nous, rien à faire. Et donc, indirectement, ils ont incité les Arabes de Palestine à ne pas entrer en matière. Et voilà, on arrive au jour J, décidé par les Anglais. C'était un vendredi, 14 mai 1948. Et là, les Juifs se réunissent. Et puis, il y en a qui sauraient mieux que moi, mais ils ont fait la déclaration pour la création de cet État juif. C'était à 16h, à 16h34, je crois, quelqu'un a dit, l'après-midi, ils ont signé et ils ont donné un nom à cet État juif, Israël. Israël, voilà. Et minuit, les Anglais étaient loin, Israël existe. Le samedi 15, Israël existe. 6 heures après, il y a 5 pays qui déclarent la guerre à cet État. Ils n'avaient pas de gouvernement, ils n'avaient pas de ministère de la Défense, rien. Ils étaient quand même préparés, on est bien d'accord. Mais là, ils vont, pour ceux qui sont croyants, ils vont à la synagogue. Et à la synagogue, il y a aussi une liturgie et ils lisent la Bible. Ils lisent la Bible, mais ils la lisent selon cette liturgie. Donc chaque Shabbat, quelque chose d'autre, et notamment aussi dans les prophètes. Et là, dans le tournus normal, ils ouvrent la Bible et ils lisent quel prophète ? Amos. Tiens. Amos combien ? Amos 9. Tiens. Ça vous rappelle ? Ce texte qui avait été le déclic pour que les juifs chrétiens réalisent que les non-juifs sont des ethnies du Seigneur, ils lisent ce même texte. Eh bien, je vais aussi vous le lire. Parce qu'ils ont lu ce même passage, mais à l'époque, les chrétiens avaient mis l'accent sur un mot. Maintenant, je veux lire, pas tout, mais la suite, les 2 derniers versets de Amos. Dites-vous bien, il y a eu ces drames, il y a ces centaines d'années derrière les Juifs de souffrance, de haine. Ils arrivent dans leur pays. Ce jour-là, le 15 mai, Israël est créé. Et qu'est-ce qu'on lit ? Je ramènerai les déportés de mon peuple, d'Israël. Ils reconstruiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays. Ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel Dieu. Ça parle de soi-même. Hein? Je vais vous lire autre chose encore. Vous voyez, ici j'ai une Bible. Elle est tout à fait comme les autres. Simplement, comme vous le savez, il y a plusieurs versions de Bible. Il se trouve que cette version, c'est les Juifs qui l'ont traduite. C'est le rabbinat français qui a traduit en français. Alors, pas de différence, mais il y a quand même une différence, c'est au niveau de la préface. Elle est unique et j'aimerais lire la fin de cette préface que les Juifs eux-mêmes ont écrite. Et c'est en lisant cette préface que j'ai compris, que j'ai réalisé qu'il y a eu cette lecture, hein, ce samedi-là. Et il termine en disant, comme le dit la Bible elle-même, la parole de Dieu est valable pour l'éternité. Pour nous, juifs, elle est une prophétie permanente dont nous suivons toujours, dont nous suivrons toujours avec émotion les merveilleux accomplissements. Moi, je relis encore une fois, mais j'ajoute encore un mot. Comme le dit la Bible elle-même, la parole de Dieu est valable pour l'éternité. Pour nous juifs et nous chrétiens, elle est une prophétie permanente dont nous suivrons toujours avec émotion les merveilleux accomplissements. Maintenant la question, le 14 mai ou le 15 mai 1948, la création d'Israël, ça vient des hommes ou ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient des hommes, l'ONU, les circonstances? Ou est-ce que ça vient de Dieu en lien aussi avec Amos 9? Maintenant, j'arrive à la conclusion. Alors, je dois juste réfléchir. Et je vais reprendre la Bible. Et puis, ah oui, il y a des choses que j'aurais pu dire que je n'ai pas dites, mais ça ne fait rien. Je vais prendre la Bible et le Nouveau Testament. Savez-vous que dans le Nouveau Testament, un verset sur 21 est une citation de l'Ancien Testament? Un verset sur 21. 10% du Nouveau Testament se réfère à l'Ancien Testament. Et ce n'est pas moi qui l'ai découvert, c'est René Pache, dans son livre « L'aspiration et l'autorité de la Bible ». Ce que j'aimerais montrer, c'est qu'il y a une unité dans tout ça. Et puis je lis maintenant dans le Nouveau Testament, et le théologien en chef, notre théologien, c'est Paul. Paul, c'est celui qui est la doctrine finalement. Et lui, dans l'Épître aux Romains, a aussi beaucoup expliqué aussi par rapport à nous, non-juifs, comme on est aussi descendants d'Abraham, enfin... Il a un peu développé, mais il ne fallait pas quand même qu'on comprenne mal. Et puis, c'est connu des chrétiens qui aiment Israël, mais je le relis quand même. Dans Romains 11, verset 1, Paul pose une question après qu'il ait développé tout ça. Il dit, mais finalement, je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Il faut bien savoir que peuple ici, c'est les Juifs. Ce n'est pas le peuple de Dieu, c'est les Juifs. Et Paul, il pose la question, je demande donc, Dieu a-t-il rejeté les Juifs? Certainement pas. Maintenant, il y a quand même toujours des questions qui viennent, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens de tous les temps qui ont aimé les Juifs, ça aussi existait. Mais ils ont toujours pensé, finalement, il faut aussi les évangéliser, quand ils reconnaîtront Jésus, leur... Mais si, c'est à ce moment-là qu'ils rentreront dans leur pays. Eh bien non, ils sont quand même rentrés. Ce n'est pas passé comme on avait vécu, comme on avait pensé. Et puis là, il y a quand même ce point d'interrogation. Ouais, mais ils ont aussi besoin de Jésus. Mais oui. Mais ayez un petit peu de compassion pour eux, après tout ce qu'ils ont vécu. Là, je suis pas en train d'improviser, mais je suis en train de reprendre des choses que j'avais pensé dire avant, mais je le dis quand même. C'est le Conseil national des évangéliques de France. C'est des gens comme nous. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit les chrétiens sont largement coupables d'avoir nourri cette haine dans l'histoire ancienne et d'avoir été complices de ses conséquences par leur silence dans l'histoire récente. Ils ne peuvent rester indifférents à cette nouvelle montée d'antisémitisme. Ce que je veux montrer par là, c'est que ce n'est pas facile pour les Juifs. On peut leur parler de Christ, mais ça veut dire quoi pour eux? Et là, dans cette finale de Paul, qui explique finalement... Cette question qu'on a, il explique, il dit, ben écoutez, verset 25, en effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages, parce qu'on aurait eu peut-être tendance des fois à se sentir vis-à-vis d'eux des plus malins, quoi, supérieurs peut-être. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Et ainsi... tout Israël sera sauvé. Comme le dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés. Je veux relire, puis je vais mettre maintenant l'accent sur un mot. Quand c'est que les Juifs vont retrouver vraiment leur Messie, selon Paul, hein? Il dit « jusqu'à ce que l'ensemble des non-Juifs soit entré ». L'ensemble des non-Juifs soit entré. Non-Juifs. J'ai été voir le mot en grec. Ethnos. Ethnie. Les 10 000. Il y a 2 ans, j'ai été manger avec un ethnologue chrétien, membre de Wycliffe. Et puis, il m'a dit « Jean-Paul, la statistique des langues où la Bible a été traduite ou bien pas encore traduite, elle existe, c'est public. Mais on ne publie pas le nombre d'ethnies qui restent encore à atteindre. Une ethnie atteinte par l'Évangile, c'est une ethnie, pas forcément où ils ont le texte de la Bible, mais où il y a une église qui prie et qui croit en Dieu. Et il m'a dit, sur les 10 000 ethnies, il n'y en a plus que quelques dizaines. Voilà. Et on pourrait ne jamais terminer. Hein. Donc je vais terminer en lisant encore une phrase qui a été prononcée le 5 octobre à Paris par Étienne Lhermenot, président du Conseil national des évangéliques, il y a 15 jours, 3 semaines. Il a appelé les pasteurs évangéliques à combattre l'antisémitisme avec fermeté, dans un communiqué. Maintenant, je vais le lire, ce communiqué. Ce communiqué, il est aussi pour nous. J'appelle nos lieux de formation des ministres du culte, instituts bibliques et facultés de théologie à rappeler inlassablement que sans Ancien Testament, il n'y aurait pas de nouveau, sans peuple d'Israël, il n'y aurait pas de Messie, sans judaïsme, il n'y aurait pas de christianisme. Amen. Voilà. Merci.